Aujourd'hui, c'est, je le rappelle, l'avant-dernier cours. Le dernier cours de l'année aura lieu samedi prochain. Et j'étais en train, la dernière fois, d'expliquer qu'à mon sens, il y avait deux régions limites du haïku, ou au haïku. La première, c'était ce que j'ai appelé le concetto, c'est-à-dire la pointe. Et la seconde région, c'était la narration. Et j'ai indiqué que beaucoup de haïkus contenaient en germe une narration. Et j'ai donné un exemple, l'exemple d'un haïku qui raconte en fait en trois vers une histoire qui est d'autre part développée dans un conte que j'ai lu et qui s'appelle « La montagne où l'on abandonne les vieux ». Alors j'en étais à ce point de ma démonstration, entre guillemets, et je voudrais dire, pour terminer ce problème de la narration et du haïku, que entre le haïku et le récit, il y a sans doute une forme intermédiaire possible, qu'on pourrait appeler la scène ou la petite scène. C'est un problème très important de la théorie de la littérature. Personnellement, il se peut d'ailleurs que nous nous en occupions l'année prochaine de ce problème, à l'aide de Proust. Il se peut, c'est pas sûr. Mais disons que personnellement, je commencerai à traiter théoriquement ce problème de la scène ou de la petite scène à partir de Brecht, qui en a fait la théorie dans sa théorie du théâtre épique, d'une part à partir d'une notion qu'il a bien expliquée, qu'il appelait les scènes de rue, Straßenszenen, et d'autre part d'une notion très importante dans son théâtre, qui est la notion de gestus social. Eh bien, on peut dire qu'un haïku, c'est une petite scène, c'est un petit gestus, un petit geste. Mais bien entendu, le problème, c'est que le haïku étant très court, il y a une sorte de pulsation anecdotique du haïku, c'est-à-dire que le haïku se trouve pris dans un mouvement, un double mouvement. D'une part, un haïku très elliptique peut être l'objet d'une sorte de diastole, c'est-à-dire il peut se décontracter, il pourrait se décontracter jusque tout un récit. Par exemple, quand je lis ce petit haïku, tout en larmes, assis, il raconte, sa maman l'écoute. Eh bien, de là, je peux effectivement écrire tout un chapitre de roman. Ceci peut fonctionner comme l'argument d'un chapitre de roman. Mais inversement, vous pouvez partir d'un chapitre de roman et, dans certains cas privilégiés, ramener ce récit très long par contraction à un haïku. Par exemple, selon une sorte de mouvement de systole. Par exemple, tout le début de La recherche du temps perdu de Proust, je pourrais très bien devenir, ça serait un peu dommage, mais enfin, ça c'est possible, ça pourrait devenir le haïku suivant, que j'improvise, bien entendu. Sa mère vient tout de même lui dire bonsoir, bonheur. Bah, eh bien, ça pourrait être tout le début de La recherche du temps perdu. Donc, entre le haïku et le récit, il y a ce mouvement, ce double mouvement qui est si important pour comprendre les problèmes théoriques de l'énonciation, ou en tout cas de la discursivité, et qu'on pourrait, double mouvement qu'on pourrait inscrire sous le nom d'une double figure de rhétorique. D'une part, l'ellipse, condensation, et d'autre part, la catalyse, remplissage, extension. Alors ici, bien sûr, on rejoint notre point de départ, qui est le rapport de la notation et du roman, le rapport de la forme longue et de la forme brève. En plaçant la narration comme je le fais maintenant, comme, disons, dernière limite du haïku, j'ai voulu indiquer, si vous voulez, l'extrême proximité de l'un et de l'autre, à travers la catégorie sur laquelle je reviendrai samedi prochain, probablement, une catégorie que j'appellerai la catégorie de l'incident. L'incident. Mais aussi, j'ai voulu indiquer l'impossibilité de nature qu'il y a, semble-t-il, à continuer le haïku en histoire. C'est possible théoriquement, abstraitement, c'est pas possible esthétiquement. C'est comme s'il y avait, entre le haïku et l'histoire, le conte, un mur invisible et infranchissable, ou encore comme si les os du haïku, de la forme brève, et les os du roman ne pouvaient pas vraiment se mêler. Je peux donner un exemple, comme toujours personnel. Par exemple, je veux... Oui, il m'est arrivé de vouloir raconter une soirée amicale à laquelle j'étais invité. Alors, en principe, une soirée, c'est une bonne matière anecdotique. Il y en a des milliers, des centaines de soirées dans les romans du monde, puisqu'il y avait des gens nouveaux, des gens très typés, des conversations, des rites de soirée, enfin une énorme matière narrative. Mais quand je me suis mis ou quand je me mettais en position de raconter, tout cela, sans doute par manque de talent personnel, s'encombrait de choses nécessaires à dire pour la logique de la narration, et cela devenait très ennuyeux pour moi-même. N'est-ce pas ? La nécessité de dire pour la logique de la narration dégageait un très grand ennui. Et je pense que celui qui sait raconter, c'est quelqu'un qui d'abord ne s'ennuie pas de ce qu'il raconte, bien entendu. Mais dès le moment où on s'ennuie un peu de ce qu'on raconte, à ce moment-là, on ne sait plus raconter. Et en fait, donc, de cette soirée que je n'arrivais pas à raconter narrativement, selon une logique narrative, je n'ai retenu, un peu plus tard, quand j'y ai repensé, que deux notations qui étaient, peu importe, mais enfin je vous l'ai dit, la robe jaune de la maîtresse de maison, qui était habillée d'une sorte de caftan exotique, d'un très beau jaune, ça, je l'ai retenu, et j'aurais pu en faire un haïku. Et puis, l'ensommeillement fatigué des yeux et des paupières du maître de maison. Ce sont les deux seules choses que j'ai retenues de cette soirée, et donc si j'avais voulu, moi, avec mes moyens, moi, faire de la littérature avec cette soirée, je n'aurais pu produire, au fond, que ces deux notations. C'était des sortes de haïkus réalistes qui épuisaient le dire et ne communiquaient pas avec le discours narratif, tout au moins dans ma pratique, puisqu'en réalité, ces deux traits étaient totalement infonctionnels, n'est-ce pas ? Le jaune de la robe de la maîtresse de maison n'avait aucun rapport fonctionnel avec le déroulement de la soirée, et le fait que le maître de maison avait sommeil non plus. Alors, inversement, je puis évidemment de temps en temps trouver dans une histoire racontée par un romancier quelque chose qui va sauter comme une pellicule, comme un copeau, à ma conscience, à ma perception littéraire, et qui aura tout l'esprit du haïku, mais en fait ne se mêlera pas vraiment à l'histoire. Donc, un tilt qui comporte toutes les spécialités du haïku, et tel que j'ai essayé de le dire, alors je peux de temps en temps le trouver dans un récit. Par exemple, le hasard, bien sûr, parce que ce sont uniquement des hasards de lecture, a fait que dans Un cœur simple de Flaubert, je suis tombé sur une notation qui me paraît exactement de la dimension du haïku. Et pourtant, cette notation est perdue dans le récit. C'est lorsque Flaubert raconte un peu la vie de la servante, n'est-ce pas, de Félicité, et ses aventures ou son aventure amoureuse quand elle était jeune, Et il en vient à dire, n'est-ce pas, elle a vécu comme un autre, comme une autre, son histoire d'amour, etc. Alors, il raconte cette histoire d'amour. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, il l'entraînait, enfin, il y a le récit d'une soirée. Un autre soir, sur la route de Beaumont, tout ça, c'est vraiment du récit. Et donc, elle est avec son amoureux, qui est Théodore, et il marche un peu dans la campagne. Et il y a cette notation que j'estime typiquement haïkiste, donc il marche la nuit dans la campagne. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charretée de foin oscillait devant eux, et les quatre chevaux, entraînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois, elle disparut dans l'ombre. Bien, j'estime, je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans cette notation la puissance même, la spécificité du haïku. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charretée de foin oscillait devant eux, et la poussière. Donc, sur ce rapport du haïku et de la narration, eh bien, je dirais que sans cesse ça se frôle, mais que ça ne communique pas vraiment, parce que sans doute la forme brève est sa propre nécessité et sa propre suffisance, et qu'en réalité elle ne se prête pas, elle se garde. Eh bien voilà, en principe, voilà pour le haïku. Et maintenant, c'est-à-dire dans les trois quarts d'heure qui restent aujourd'hui et samedi prochain, je voudrais vous parler de, je voudrais, si vous voulez, revenir peu à peu à notre tâche initiale qui était de dire comment passer d'une notation fragmentée du présent, dont nous avons pris le haïku pour forme exemplaire, comment passer d'une notation fragmentée du présent à un projet, disons, romanesque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, du haïku, peut passer dans notre réflexion occidentale, dans notre pratique d'écriture. Et je vais indiquer quelques-uns de ces passages, de ces sorties, comment on sort du haïku vers quelque chose qui est de la région de la notation. Alors, je dirais premièrement, à tout seigneur, tout honneur, les problèmes de pratique quotidienne de la notation. Pratique quotidienne de la notation. Premièrement, il y a un problème, je dirais, d'instrumentation. Des instruments nécessaires, des outils, des instruments nécessaires pour noter. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème, ou en tout cas, pourquoi est-ce que moi, je m'en fais un problème ? Eh bien, parce que la notation, en réalité, il faudrait le dire en latin, n'est-ce pas ? C'est « notatio », c'est-à-dire c'est l'acte de noter. La notation, pour nous, ce n'est pas le résultat de cet acte qui est écrit, ou en tout cas, nous employons surtout « notation » au sens fort de « notatio ». Et que donc, il y a pour nous nécessité de capturer une sorte de « copo » du présent, tel qu'il me saute à l'observation et à la conscience. Et donc j'ai besoin d'un instrument pour noter ce qui me saute pendant que ça me saute à la conscience. J'ai dit copo, un copo de présent. La métaphore est volontaire, pourquoi ? Parce que justement, ce que je veux noter, ce que je voudrais noter, je pourrais dire que ce sont, comme on dit dans le langage de presse, n'est-ce pas, mes scoops personnels et intérieurs. Vous savez que scoop, en anglais, ça veut dire pelle, écope, action d'enlever avec une pelle, rafle, coup de filet, et donc en langage de presse, primeur sensationnelle, n'est-ce pas ? La nouvelle que le journaliste a visée rafle. Voilà ce que c'est qu'un scoop. Eh bien, Je dirais que mes notations, pour moi, ce seraient les très petites nouvelles, bien sûr, les très petites nouvelles qui me sont à moi sensationnelles et que je veux rafler à même la vie. C'est pour ça que je les appelle mes scoops intérieurs. Et deuxièmement, ces notations, ces scoops, ont évidemment un caractère de soudaineté. J'ai parlé souvent du satori, la secousse mentale. On pourrait dire aussi, pour reprendre une notion dont j'ai parlé l'année dernière pour le neutre, le kairos, la bonne occasion, le bon moment, qui ferait que ces notations, cette activité de notation, ça serait une sorte de reportage, non pas à même la grosse actualité, mais à même ma petite actualité personnelle. Si je me traitais, peu importe le narcissisme de la proposition, il fait partie du narcissisme de ne pas s'inquiéter d'être narcissique, n'est-ce pas ? Donc, peu importe. Et si je me traitais, moi, comme un monde, comme le monde, au sens politique du terme, eh bien, je dirais que je suis en position d'être le reporter de ce monde-là. Soit avec ses nouvelles, avec ses scoops. Eh bien, donc faire une sorte de reportage, non à même la grosse actualité, mais à même ma petite actualité personnelle. Et à ce moment-là, bien entendu, la pulsion de notatio est imprévisible. De même qu'un bon journaliste, un bon reporter, c'est celui qui ne sait pas à l'avance qu'il va pouvoir capter une nouvelle, n'est-ce pas, mais qui se trouve là au bon moment, Kairos, qui a le flair de se trouver là au bon moment, hein, eh bien, de même, moi-même, vis-à-vis de moi-même, je ne sais pas à l'avance ce que je vais avoir à noter, mais il faut que je sois toujours là, avec l'instrument approprié, pour noter cette espèce de scoop intimiste qui va m'arriver. Et par conséquent, la notatio, la pratique de notation, est une pratique, bien entendu, extérieure. C'est-à-dire que c'est une pratique que je dois faire, pas ou pas seulement à ma table de travail, mais que je dois être à même de faire partout, dans la rue, au café, avec des amis, etc. Et là, donc, on rencontre cet instrument classique, de l'écrivain classique en tout cas, qui est le carnet. Je ne puis ici parler que de ma pratique personnelle. J'ai une pratique déjà ancienne du petit carnet. Et si j'en parle, vous allez voir, ça pose des problèmes extrêmement futiles, mais très encombrants, si je puis dire. Et le carnet implique dès le départ deux types de notation, si vous voulez. Je leur donnerai des mots latins parce que c'est plus simple. La notula et la nota. Voici comment ça se passe. En général, je note sur mon carnet, au café, dans la rue, n'importe où, je note simplement le mot, un mot. Ce matin, je tousse beaucoup parce que j'ai arrêté de fumer. Qui me rappellera, donc je note simplement le mot, qui me rappellera l'idée, n'en disons pas plus, appelons ça l'idée, que j'ai eue et que je vais recopier le lendemain matin, chez moi, tranquillement, sur une fiche. Voilà la technique. Donc j'appelle notula l'espèce de mot, deux ou trois mots, que je note très vite sur le carnet, n'importe où je sois, et j'appelle nota la transcription, disons, un peu plus façonnée, sur une fiche le lendemain de cette notula. La notula, c'est-à-dire ce que je marque sur le carnet, peut être absolument elliptique, n'est-ce pas ? Parce que, en fait, je me souviens très bien de toute l'idée, et même de sa forme, simplement à partir d'un mot. Il suffit que je note un mot pour que je n'oublie pas ce que je pense, ce que j'ai pensé de ce mot. Et ça entraîne, je dirais, une sensation assez vertigineuse, parce qu'on peut se demander si, tout au moins dans mon économie personnelle, c'est la seule dont je puisse parler, puisque vous savez que ces micro-pratiques d'intellectuels sont, pour ainsi dire, jamais étudiées et jamais livrées, et que quand par hasard elles le sont, elles entraînent de gros rires et de grosses ironies de la part des journalistes qui pensent que c'est faire beaucoup d'histoires pour peu de choses, que les écrivains sont vraiment fous, etc. Mais de toute manière, n'est-ce pas, c'est une sensation assez vertigineuse de penser qu'une idée, au fond, n'aurait pas plus d'importance et de nécessité que le temps très bref de son souvenir, et qu'elle peut retourner au néant sans qu'évidemment ça ait aucune espèce de conséquence. Ce qui prouverait que précisément la notation et tout ce qu'elle entraîne ensuite, c'est-à-dire en fait l'œuvre, en mettant les choses au mieux, est toujours une sorte de luxe, que c'est une activité luxueuse. Alors, je le répète, je ne veux pas censurer devant vous la futilité de cette micro-technique de notation. Donc, il y a un carnet qui n'est pas gros, et qui, d'ailleurs, pose le problème du vêtement, car le vêtement moderne masculin abandonne de plus en plus la veste, et donc on ne sait pas très bien où mettre le carnet. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit très mince. Et je dis cela parce que on a des carnets anciens de grands écrivains. On a par exemple les carnets de Flaubert, je les ai vus. Alors, je ne sais pas, à la bibliothèque historique de Paris, enfin là où il y a des manuscrits de Flaubert et de Michelet. Et c'était des carnets oblongs en belle moleskine noire, très luxueux, pas, mais évidemment lourds, qui supposaient un vêtement adapté, avec des poches adaptées pour porter ces carnets. Et les carnets de Proust aussi sont de très beaux carnets oblongs et assez importants. Tandis que maintenant, sans veste, le carnet se place mal, et par conséquent, puisque pendant l'été, on porte encore moins de veste que pendant l'hiver, donc on prend moins de notes l'été que l'hiver. Quant au stylo, pourquoi ne pas le lire ? Là aussi, il faut étudier la question. Après tout, un peintre fait très attention aux matériaux qu'il emploie. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le mieux, évidemment, c'est ce que l'espèce de bic à ressort, parce que il faut que ce soit rapide et qu'on n'ait pas au café ou quand on parle avec des amis à le petit processus qui consiste à décapuchonner le stylo serait trop long. Bien sûr, un bic, ça n'est pas une vraie écriture, je l'ai dit plusieurs fois, écrire à la pointe bic, ça n'est pas vraiment une écriture au sens graphique et esthétique du terme, ça ne comporte pas, je dirais, une dialectique du muscle, de la pesée. Mais ça n'est pas grave, puisque la notula n'est pas encore de l'écriture, tandis que quand elle va revenir sur l'affiche, sous forme de nota recopiée, elle commencera à être de l'écriture. Tout cela veut dire que, au fond, la capture du scoop de la notation entraîne l'image d'un geste unique et lié qui sortirait instantanément le carnet à la bonne page, et le scripteur prêt à tracer. Et naturellement, vous trouvez dans la description de cette image, comme sous-imprimée ou surimprimée, l'image d'un gangster qui sort son Colt. Car c'est le même geste, n'est-ce pas ? Il faudrait pouvoir sortir le stylo et noter exactement comme le gangster sort son Colt. On a déjà parlé d'ailleurs de stylo-caméra, mais bien sûr, il ne s'agit pas de faire voir, il s'agit de faire exister en germe, dans la notula, quelque chose qui est, et dont je parlerai plus tard, qui est la phrase. Deuxième ordre de remarque dans la pratique quotidienne de la notation, ceci. Pour quelque fin que ce soit, qu'on veuille prendre des notes à même la vie, et non pas à même un livre, c'est pas, non pas des fiches de lecture, mais disons des fiches de vie, ou à même le livre de la vie, que ce soit pour faire un roman, qu'on ne fera jamais, que ce soit pour faire un essai, ou un texte poétique, ou rien que pour le plaisir de noter, par exemple dans un jour, pour un journal intérieur, eh bien, je crois qu'il faut bien admettre ceci, c'est que pour qu'une pratique de la notation en acte dans la vie, dans la promenade de la vie, pour qu'une telle pratique s'accomplisse réellement, c'est-à-dire donne un sentiment de plénitude, de jouissance et d'utilité, de bon usage, eh bien, il faut une condition qui est d'avoir du temps, et d'avoir beaucoup de temps. J'insiste, c'est paradoxal. On pourrait croire que la note ne prend pas de temps, et que même elle est faite précisément pour ne pas prendre de temps, puisqu'elle se prend n'importe où, n'importe quand. Que par conséquent, elle ne fait, au fond, apparemment que doubler ou supplémenter une autre activité principale de promenade, d'attente, de réunion, etc. Or, l'expérience montre, ou en tout cas m'a montré, et m'a montré, je dirais, d'une façon dolosive pour moi, que pour avoir des idées, entre guillemets, c'est-à-dire des choses à noter, il faut être disponible. Ou en tout cas, c'est mon cas. Ce sont des problèmes peut-être de structure subjective, n'est-ce pas ? On peut très bien admettre qu'il y ait des tempéraments, comme on disait autrefois, qui, pour avoir des idées, aient besoin de vivre dans une espèce de hâte, de surcharge d'occupation, de presse, de rendez-vous, de choses à faire. Personnellement, ça n'est pas mon cas. Et donc, j'ai besoin d'être disponible. Et évidemment, être disponible pour noter des choses qui arrivent dans la vie, ou dans la rue, par exemple, c'est très difficile. C'est très difficile, pas seulement pour des raisons pratiques, qu'on n'a pas le temps, mais pour des raisons, je dirais, structurales. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est tout de même pas possible de se promener exprès dans la vie ou dans la ville pour sortir sans cesse son carnet. Ça n'est pas possible, ça serait stérilisant et on ne noterait absolument rien. Mais en même temps, il faut un poids de la disponibilité, comme une sorte d'humus. Il faut que la disponibilité, font la paresse, l'attente, soit là virtuellement, mais pas centralement. Et c'est toujours cette attitude indirecte qui est très difficile à obtenir. On pourrait dire qu'au fond, le problème de ce romancier, un peu rétro d'ailleurs, que je suis en train de dessiner, avec son carnet de romancier, ses notations, la difficulté pour lui, ou le problème technique, est le même que celui qu'on appelle dans le champ de la psychanalyse du nom d'attention flottante. Hein? Au fond, ce romancier-là, il doit être à l'égard de la vie, entre guillemets, en état d'attention flottante. C'est-à-dire, il fait attention, ce qu'on lui dit ou ce qu'il voit, mais il ne cherche pas à le provoquer. Hein? Son attention flotte, elle est là, mais elle flotte, elle est disponible. Il ne faut pas se retourner sur l'attention. C'est là le grand mythe, je crois, dont j'ai toujours pensé que c'était vraiment le mythe de l'écrivain, qui est le mythe d'Orphée, qui est de ne pas se retourner sur ce qu'on aime, ce qui est toujours très difficile. Conduire ce qu'on aime, comme Orphée, mais ne pas se retourner dessus pour le regarder en arrière. Ne pas se retourner sur l'attention, mais cependant, ne jamais investir trop fortement à côté. Parce que sans cela, on ne notera rien. Je me souviens très bien qu'il y a très longtemps, il y a maintenant vraiment assez longtemps, peut-être 15 ans, j'ai fait un voyage au Canada, c'était un peu l'époque où j'avais écrit une mythologie sur le catch. Des hommes de radio de Montréal avaient eu l'idée très bienveillante de me faire assister à un grand match de catch à Montréal et de me suspendre un micro au cou en me disant « ne faites attention à rien, promenez-vous et quand vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites puisque votre micro est là ». Et évidemment, j'ai été rigoureusement silencieux pendant toute la séance de catch. Enfin, ça a été un échec complet. Donc, c'est ce problème de l'attention flottante qui est très difficile à résoudre. Et bien sûr, parce que la notation implique une disponibilité, c'est-à-dire du temps, il est normal que, jusqu'à présent, en tout cas, ou autrefois, ou naguère, l'activité de romancier, au sens classique du terme, ait été souvent une activité de rentier. C'est le cas de Flaubert, disons, le cas des Goncourt, ou le cas de Gide, n'est-ce pas ? Et par conséquent, si on a un travail pressé et ample à faire, on n'est pas disponible et on ne peut pas prendre de notes. Et la logique de ce paradoxe, ce serait que celui qui déciderait que sa pratique, pendant un certain temps, va être celle de la notation, eh bien, à ce moment-là, il serait obligé, s'il était logique avec lui-même, de refuser tout autre investissement d'écriture. C'est-à-dire que il faudrait finalement, à un certain moment, choisir ou bien on se donne à la pratique de la notation, que ce soit pour faire un roman ou tenir un journal, peu importe, mais si on le fait sérieusement, on se donne à cette pratique, et à ce moment-là, on refuse toute autre sollicitation. Ça veut dire qu'on ne participe pas à des colloques, qu'on ne fait pas de radio, qu'on n'écrit pas de texte, qu'on n'écrit pas d'article, qu'on n'écrit pas de préface, qu'on ne fait rien que être dans la vie avec son carnet et sa pointe bic. Et donc, à ce moment-là, bien que la notation puisse paraître une pratique extrêmement futile et dérisoire, elle peut, elle, devenir un objet fondamental d'investissement. Et j'avais même pensé, puisque c'est l'un des problèmes de la vie d'intellectuel, au bout d'un certain temps, quand il y a un certain engrenage de l'âge, n'est-ce pas, il y a tout de même des demandes qui se présentent assez souvent de textes à faire, etc. Et je m'étais dit, il faut que je me fasse une devise que je mettrai sur mon papier à lettres, comme ça, tout le monde saura que je ne peux pas accepter, pendant un certain temps, ce qu'on me demande. Alors, j'ai cherché cette devise, je me suis dit, il faut la faire en latin, et je voulais exprimer l'idée, je ne me laisserai pas détourner. Je ne me laisserai pas détourner pour faire ceci, ceci, cela, de ce que je veux vraiment faire, qui est de me promener dans la vie en notant. Je ne me laisserai pas détourner, c'est d'ailleurs une phrase qui est de, je crois, dans la recherche du temps. J'ai décidé d'écrire ce livre, la mort est là à côté, et donc je ne me laisserai pas détourner. Et je ne me laisserai pas détourner peut se dire, bien sûr, en latin, mais ça ne sonne, si on le traduit littéralement, ça ne sonne pas comme une devise, n'est-ce pas ? Une devise latine, ça doit sonner d'une certaine façon. Il y a une musique à respecter. Et alors, j'ai consulté par ami interposé un latiniste de l'école normale supérieure et qui m'a dit que la meilleure devise, je vous dis tout ça parce que c'est tout de même linguistiquement assez intéressant, pour traduire donc « je ne me laisserai pas détourner de ce que j'ai décidé de faire », ça serait la formule, je vous la donne en latin, nihil nisi propositum. Nihil nisi propositum. Alors, c'est une formule très intéressante parce que si on la lit avec le peu de latin qu'on sait, on fait évidemment un énorme contresens, c'est-à-dire qu'on traduit rien sinon ce qu'on propose, c'est-à-dire le contraire même de ce que veut dire la devise, n'est-ce pas ? Mais en réalité, ça serait un contresens de traduction, car ça veut dire rien sinon ce que je me suis posé moi-même dans la tête avant, propositum, n'est-ce pas ? Et il paraît que en latin, il n'y a aucune ambiguïté possible. Rien sinon ce que je me suis à moi-même proposé. Eh bien, j'en suis resté là, je n'ai pas fait faire le papier à lettres, mais normalement, n'est-ce pas, celui qui voudrait vraiment, je le répète, se donner à une pratique de la notation, devrait effectivement refuser toute autre chose et considérer que c'est sa tâche majeure, sa tâche essentielle. Et troisième remarque, toujours dans cette pratique de la notation, pratique quotidienne, j'ai fait souvent cette constatation que quand je suis un certain temps sans noter, c'est-à-dire sans sortir mon carnet, sortir le carnet, entre parenthèses, n'est pas une opération mondaine, très facile. On ne peut le faire qu'avec des amis très proches qui savent que, dont on espère qu'ils savent que ce qu'on est en train de noter ne les concerne pas. Sinon, on ne peut pas sortir son carnet et il faut attendre que l'entrevue soit finie pour essayer de se rappeler ce qu'on voulait noter. Eh bien, quand je suis un certain temps sans noter, c'est-à-dire sans sortir mon carnet, j'ai constaté que j'avais une sorte de sentiment de frustration et de sécheresse. Et donc, chaque fois qu'on revient et qu'on peut revenir, je parle de moi bien sûr, à la notatio, on la vit, on sait bien que la notatio, c'est comme une sorte de drogue, comme un refuge, comme une sécurisation. Je dirais, la notatio, c'est comme une maternité. Je reviens à la notatio comme à une mère qui me sécurise. Noter me sécurise. Bien sûr, peut-être il s'agit là d'une structure psychique qui est tributaire d'un certain mode de culture, d'un certain mode d'éducation. L'intériorité, pour certains sujets, peut être vécu comme un lieu sécurisant. Hein. Peut-être même on pourrait imaginer une sorte de typologie, enfin, qui n'aurait aucune valeur méthodologique, où il y aurait d'un côté ceux que l'intériorité sécurise, et d'autres ceux que l'intériorité, au contraire, ravage et angoisse. Hein. Peut-être que ceux que l'intériorité ou l'intériorisation sécurise, peut-être sont-ils à replacer, par des motifs d'éducation, dans une certaine tradition, je dirais au sens très large du terme, de type protestant. Puisque, effectivement, il y a une pratique protestante de l'intériorité, de l'intériorisation, et il y a un rapport entre cette valeur de l'intériorité dans la culture ou l'éducation protestante et d'autre part le foisonnement des journaux autobiographiques chez des écrivains d'origine protestante ou de climat protestant comme Gide ou Amiel. On pourrait d'ailleurs de fil en aiguille remonter à un certain clivage historique. Vous savez que dans l'Europe du Nord, donc finalement celle qui va être un peu plus tard au XVIe siècle, le terrain même, le champ géographique même de la Réforme, à la fin du Moyen-Âge, dans l'Europe du Nord, se développe une pratique qui a ses adeptes, et cette pratique, on l'appelait en latin, la devotio moderna, la devotio moderna. Et il y avait, disons, des espèces de confréries d'adeptes de cette pratique, qui en général étaient des laïcs cultivés, la bourgeoisie d'affaires, qui va fournir effectivement, je dirais, les troupes essentielles du protestantisme. Et cette pratique consistait à substituer à la prière liturgique collective, de type catholique romain, la méditation individuelle, le contact direct avec Dieu. C'était ça, la devotio moderna. Or, je suis persuadé que cette pratique a eu beaucoup d'importance dans son héritage, dans sa suite, et qu'il faut la mettre en rapport avec, par exemple, la pratique de la lecture individuelle qui s'est développée en Europe, précisément, à la fin du Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Lire individuellement, qui nous paraît maintenant quelque chose d'absolument naturel, il n'en a pas été ainsi pendant très longtemps. La lecture était une activité, la plupart du temps, collective, n'est-ce pas ? Sauf chez quelques écrivains ou quelques moines supérieurs, n'est-ce pas ? Mais autrement, la lecture était une activité collective. Par conséquent, passer d'un rituel collectif à un rituel absolument individuel et personnel, et donc déritualisé, ce qui était le propre de la devotio moderna, c'était évidemment ouvrir la culture à un type de lecture individualisé et intériorisé. Et donc, toujours dans la même perspective, au bout, eh bien, il y a la notatio, c'est-à-dire finalement le journal intérieur. Dans la notatio, en effet, il n'y a pas de médiateur, ni prêtre, ni œuvre. L'œuvre elle-même n'est pas encore le médiateur. La notatio, c'est l'articulation directe du sujet pensant, disons, sur le sujet phrasant, sur le sujet qui fait la phrase. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de la notatio comme d'une capture sur le vif, c'est-à-dire comme s'il y avait un accord instantané entre ce qui est vu, observé, et ce qui est écrit. Mais en fait, très souvent, il y a un après-coup de la notatio. La nota, c'est-à-dire ce qu'on note sur la fiche, c'est ce qui, après une sorte de latence probatoire, revient malgré soi et insiste. Par conséquent, ce que la mémoire doit préserver, c'est le rôle du carnet, ça n'est pas la chose, c'est son retour éventuel, car ce retour a déjà quelque chose d'une forme ou d'une phrase. Et la nota, très souvent, participe de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de l'escalier, hein, c'est une vivacité déplacée, une vivacité retard. Alors, pour cette notatio, il y a, j'en termine avec la pratique quotidienne ici, il y a une première épreuve de viabilité pour une note, comprend. C'est le moment, dans ma pratique, où l'on passe du carnet à la fiche, c'est-à-dire de la notula à la nota. Parce que très souvent, vous prenez la matière d'une note sur votre carnet et le lendemain matin, vous allez la recopier sur une fiche. Hein? Mais en fait, recopier, très souvent, ou souvent, disons parfois, dévalorise ce qui n'est pas assez fort. Enfin, le recopiage n'est pas un acte mécanique, c'est un acte d'évaluation. Copier est un acte d'évaluation, il faut toujours redire ça. Parce que on n'a pas souvent, quand il s'agit de recopier, on n'a pas, je dirais tout simplement, le courage musculaire de recopier, car le muscle amène à se demander si ça en vaut la peine, tout simplement. Et sans doute que l'écriture, comme acte complexe et complet, naît au moment de la copie. La nota. Il y a des liens énigmatiques entre l'écriture et la copie. Et la copie, je le répète, l'acte de copier est une donation de valeur. On peut écrire pour soi, dans la perspective de la Devotio Moderna, mais on copie déjà pour quelqu'un, en vue d'une communication extérieure et en vue d'une intégration sociale. D'où le fait que, d'où l'impact extrêmement paradoxal de Bouvard et Pécuchet, puisque ils finissent par copier, n'est-ce pas, pour eux. C'est là qu'est le paradoxe, n'est-ce pas? Mais de toute manière, le livre est fait pour être un immense paradoxe. Un immense paradoxe et une espèce de triomphe par l'absurde, en quelque sorte, de l'écriture. Bah, la boucle est fermée et au dernier moment, dans la dernière image, ils se remettent à copier, mais pour eux. Au départ, c'était des copistes, l'un dans une maison de commerce, l'autre dans un ministère, je crois de la marine, n'est-ce pas? À une époque où il n'y avait pas de machine à écrire, c'est des copistes, des dactylos, disons. Donc, ils copiaient pour d'autres. Et puis, à la fin, ce qu'ils ont découvert dans cette espèce d'initiation à rebours qui constitue tout le roman, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il suffisait de copier pour soi. Voilà pour la pratique quotidienne. Maintenant, j'en viens à un second passage hors du haïku, dont j'ai déjà un peu parlé, mais je voudrais y revenir. C'est ce que j'appelle le problème des niveaux de notation. Les niveaux de notation qui a rapport aussi avec ce que j'ai dit de la division du réel dans le haïku. Vous connaissez sans doute l'importance de la notion de niveau de perception pour l'identification, la reconnaissance et la nomination d'un objet. Un objet change d'être et de nom selon le niveau de perception auquel on se place pour le recevoir. C'est l'énorme dossier de la taille, de la dimension, qui est une notion capitale non seulement en esthétique, hein, mais bien sûr aussi en psychologie de la perception. L'architecture, par exemple, on a pu dire que c'était un art des grandeurs, un art des dimensions. Et je rappelle que, par exemple, il y a une planche de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, qui est extrêmement célèbre, parce que c'était la découverte du microscope était assez récente, et il y a une planche de l'encyclopédie qui donne, donc, vous voyez la dimension de ces très grands volumes, qui donne l'image, la gravure d'une puce qui est grossie au microscope. Ouais, donc, une puce qui ferait à peu près la hauteur de cette table. Et c'est un animal absolument terrifiant. C'est vraiment le monstre tel que un film américain de grande épouvante des temps très anciens ou des temps très futurs pourrait l'imaginer. Donc la taille change tout. Et sur un mode plus subtil, faut toujours rappeler cette boutade de je ne sais plus quelle critique de peinture, mais qui est une boutade intelligente en tout cas, qui avait dit que tout Nicolas de Staël, tout le peintre Nicolas de Staël, était sorti de 5 cm carrés de Cézanne. Agrandissez 5 cm carrés de Cézanne, vous auriez, bien sûr c'est une boutade, vous auriez Nicolas de Staël. Donc, importance des niveaux de perception. Eh bien, dans l'ordre de la littérature, l'équivalent, ce serait le problème des niveaux de notation. Jusqu'où peut-on descendre pour noter? Et nous avons vu cela pour le haïku, qui descend dans le trait ténu. Mais il faut remarquer que la capture du ténu n'est pas obligatoirement lié à la forme brève et que parfois il faut beaucoup de langage pour rendre compte d'une force de division et de divisibilité. C'est le cas de Proust, justement, Proust dont Valéry disait, et c'était un mérite de la part de Valéry, car il l'a dit, je crois, très peu de temps après la mort de Proust, c'est-à-dire un moment où personne ne voyait vraiment l'importance de Proust. Et Valéry a dit, Proust divise et nous donne la sensation de pouvoir diviser indéfiniment ce que les autres écrivains ont accoutumé de franchir. Et bien sûr, cette espèce de force de division de Proust est liée, si on veut, à son hyper-perception, c'est-à-dire à son hyper-sensibilité, au sens physiologique du terme, c'est pas hyper-sensibilité aux odeurs, par exemple, et aussi hypernésie, excès de mémoire. Car paradoxalement, pour diviser, Proust a été obligé d'agrandir et de multiplier. Et en un sens, l'expérience du ténu est une expérience du grand, une majoration, non une futilisation. C'est le cas exemplaire de Ilié, la maison de la tante Léonie, qui est une toute petite maison, un tout petit jardin, que Proust a agrandi, n'est-ce pas? Il ne l'a pas seulement majoré, il l'a agrandi, je dirais, topographiquement. Car dans le jardin d'Ilié, je ne pense pas que la grand-mère aurait pu se promener sous la pluie. Il n'y avait pas la place pour se promener sous la pluie. Enfin, à mon sens. Bien sûr, c'est pas une preuve, si vous voulez, mais quand on visite Ilié, vous savez très bien qu'on est absolument abasourdi par la petitesse et bien entendu la mesquinerie petite bourgeoise du lieu. C'est un petit pavillon de banlieue. Et de ce petit pavillon de banlieue, dans ce petit pavillon de banlieue, avec son petit jardin, se passent des épisodes qui sont absolument maintenant monumentaux pour la mémoire littéraire française. Donc là, il y a vraiment un problème de taille. Alors, bien sûr, lorsque des notations très divisées se pressent, il y a transformation du temps, de la temporalité, et Baudelaire a dit cela à propos du sujet qui a fumé du hache, quand il dit « car les proportions du temps et de l'être sont complètement dérangées par la multitude et l'intensité des sensations et des idées ». On dirait qu'on vit plusieurs vies d'hommes en l'espace d'une heure. Je cite cela pour la dernière phrase qui vient maintenant. N'êtes-vous pas alors semblable à un roman fantastique qui serait vivant au lieu d'être écrit? Eh bien, la métaphore de Baudelaire dit bien qu'à l'horizon de la division, c'est-à-dire de la prolifération de la notation ou des notations, il y a finalement le roman. Beaucoup, beaucoup noté, tout le temps noté, en divisant beaucoup, finalement, téléologiquement, c'est le roman qui est au bout. Mais pour nous, bien sûr, cette année, du moins, nous en restons à la notation isolée, à la forme brève, et la question que je me pose maintenant est la suivante. De quel ordre peut être l'unité de notation ? Autrement dit, quelles sont les justifications possibles au notable, à ce qui peut être noté ou ce qui doit être noté, disons en latin notandum, appelons ça le notandum, le notable, ce qui peut être noté, comment peut-on justifier de noter quelque chose? Alors, je crois que pour ne pas casser l'exposé de ces justifications, je vais m'arrêter ici. Samedi prochain, il est évident que je déborderai un peu, je ferai déborder le cours proprement dit pour le terminer sur la seconde heure de séminaire. C'est-à-dire que je donnerai une sorte d'aperçu final sur le labyrinthe qui sera vraisemblablement bref, mais je prendrai le temps de finir le cours sur le haïku et la notation. En tout cas, rendez-vous dans 5 ou 10 minutes pour le séminaire.